Voilà, on rentre directement dans le message. Et ce matin, c'est un message d'encouragement. Certains vont dire, ah, enfin, non. Hein. Non, parce que la parole, à un moment donné, elle vient, elle nous reprend, hein, elle nous encourage. C'est le Saint-Esprit qui fait cela, c'est le Saint-Esprit qui inspire ceux qui partagent la parole. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de couronne. Oui. Couronne, et parce que la Bible, elle en parle, hein, et puis on va voir ce que représentent les différentes couronnes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Ça vous est déjà arrivé de lire les passages dans la parole et de vous dire, tiens, il est parlé de couronnes, on va les voir, on va les définir, on va se demander pourquoi elles sont là, et quelle est la perspective pour plus tard, et pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique dans nos vies? Donc, un bon programme, je trouve, au niveau de la parole. Et d'emblée, ce qu'on peut dire, ce que représentent les couronnes, c'est que dans la Bible, les couronnes ne symbolisent pas la gloire humaine. Parce que nous, on pourrait croire que, finalement, les couronnes symbolisent la gloire humaine. Ça symbolise la récompense divine. Est-ce que vous êtes au courant que pour ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur, on va se retrouver là-haut, vous allez recevoir des récompenses pour sa fidélité. Alléluia, ça réjouit nos cœurs. Hein. Amen, hein, ce matin. Hein. Donc le thème, c'était la joie d'avoir été sauvé. Et ça continue parce qu'il dit que ça symbolise donc les récompenses divines, la reconnaissance de la fidélité. Aujourd'hui, un mot qui est bien galvaudé, hein, la fidélité telle que Dieu la prône, telle qu'il nous encourage à être dans cette fidélité, ça va être cela, donc la reconnaissance, l'accomplissement de la course chrétienne. J'ai envie de dire, c'est l'achèvement, c'est finir la course en vainqueur, en recevant la couronne que le Seigneur va nous donner. Et cette couronne, elle est destinée à tous ceux et celles qui vont franchir la ligne d'arrivée. Alors, ce n'est pas encore terminé. Hein. Peut-être qu'on la voit poindre parce que les événements nous montrent que le Seigneur revient. Alors, certains pourraient dire, mais voilà, ça fait tellement de temps qu'on entend que le Seigneur revient. Alors, c'est vrai que pour nous, on est dépassé parce que, par rapport au temps, mais le Seigneur, on voit qu'il y a comme une accélération au niveau des prophéties annoncées dans la Bible. Donc, on voit que tout pointe vers le retour de notre Seigneur. C'est l'accomplissement donc de la course chrétienne et on veut la terminer en vainqueur. Alléluia. Et comme le Seigneur nous aime, il ne nous laisse pas sans ressources, sans indications, sans informations qu'on retrouve dans la Bible. Comment bien terminer la course? Bonne question, hein, on va le voir un peu plus loin. Et puis surtout, c'est la victoire spirituelle. Recevoir la couronne nous représente la victoire. Alors, je ne sais pas vous, hein, peut-être que certains pourraient juste se contenter de ce fameux adage « l'important, c'est de participer ». Mais ici, ce n'est pas trop le cas. Hein. L'important, c'est de gagner. Et l'important, c'est la victoire. La victoire que le Seigneur a acquise à la croix du calvaire et il nous fait participer à cette victoire. Et donc là-haut, nous allons recevoir les couronnes, alléluia, de la part de notre Seigneur. Le mot en grec pour couronne, c'est le mot stéphanos, qui signifie couronne du vainqueur. Et ça nous ramène aux fameux Jeux Olympiques de l'époque où ils recevaient pas une bourse d'argent, mais ils recevaient cette fameuse couronne dans les Jeux Olympiques antiques, et donc comme une récompense. Ce n'est pas une couronne royale, parce qu'on retrouve dans plein de passages, notamment dans l'Ancien Testament, hein, le couronnement de certains rois. Le mot, c'est « diadéma ». Donc on comprend, hein, diadème, hein, mais ce n'est pas ce mot-là, c'est le mot, donc Stéphanos, c'est de quelqu'un qui a combattu. On va le voir, la vie c'est un combat, hein. On le sait, dès la première seconde qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, nous rentrons dans un combat qui est spirituel. Et le Seigneur, il nous donne encore des armes à lui seul, soit toute la gloire, amen. Donc c'est réservé à ceux qui combattent, qui persévère. Et ça a été le thème de la prière de Sylvain ce matin, et oui, hein, la persévérance. Dieu est un Dieu qui persévère quand il vient pour nous poursuivre, afin que nous capitulions à lui donner notre vie et finalement à être sauvés et à régler le problème de l'éternité. Ça, c'est le problème le plus urgent que nous ayons à régler sur cette terre. Pour ceux qui l'ont fait ce matin, eh bien, on s'est réjouis dans la présence de Dieu, on a glorifié le Seigneur en disant « Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés ». Plusieurs chants ont été orientés, hein, donc avec ces paroles. Nous avons été sauvés, quelle grâce et quel privilège, alléluia. Ce n'est absolument pas par nos mérites, parce que s'il fallait compter simplement que par nos mérites, alors je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas quel mérite j'aurais pu apporter au Seigneur pour qu'il puisse venir dans ma vie. Mais en fait c'est un effet de sa grâce. Et pour sa grâce, ce matin, nous l'avons loué et nous l'avons glorifié, que son nom soit béni, alléluia. Donc persévérer. Amen. Et pour ceux qui ont vaincu également, donc quand on parle de combat, ça parle surtout de combattre la chair qui est là. Vous avez remarqué que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit ? Je ne vous apprends rien ce matin, hein, parce qu'on est tous confrontés à cela et on doit veiller donc pour chacun, pour lui-même. Alors les différentes couronnes qui sont mentionnées, hein, notamment dans le Nouveau Testament, la Bible parle de 5 couronnes. Il y en a 5, les principales, qui sont promises aux croyants. La première de ces couronnes, c'est la couronne incorruptible, qui ne peut se corrompre. On trouve dans ces quelques versets, donc de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 27, cette image, il y a ce symbole. Hein, on parlait de course tout à l'heure. Regardez, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Ici, c'est l'exhortation. Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir, et c'est là, une couronne, donc corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Ici, je découvre que l'apôtre Paul, en fait, il avait les mêmes problèmes que nous. Il avait les mêmes problèmes que chacun d'entre nous. Alors, et ça le ramène finalement à la place qui est la sienne. C'est tout simplement un instrument de Dieu, mais ça restait un homme. Parce qu'on aurait tendance à diviniser l'homme et à humaniser Dieu. Et quand il y a cette inversion de valeur, ça ne fonctionnera pas. Hein. Dieu est Dieu. L'homme reste l'homme, et quand on le reconnaît, ben, on est dans l'humilité, hein, forcément, de savoir ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Regardez, quand on a lu donc ces 3-4 versets, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Alléluia. Et nous tous, nous devons être motivés pour remporter ce prix. Et le prix, il le définit un peu plus loin. Hein. Certains courent pour des couronnes corruptibles. On le voit partout dans le monde. Hein. Courir pour des choses qui finalement vont passer. Des choses éphémères. Et les gens, certaines personnes, la plupart des gens que nous connaissons, leur seul objectif, c'est de réussir dans cette vie. Alors, évidemment, hein, que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on veut réussir donc dans cette vie. Mais on veut également investir la vie qui va arriver encore plus tard. Et pour cela, ça se passe ici-bas. C'est ici-bas que tout se rejoint. Donc, on voit qu'ils obtiennent une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible, incorruptibilité. Et donc, je cours non comme à l'aventure. Comme s'il disait, en fait, il n'y a pas de hasard. Je cours avec un but précis, un objectif précis. Je ne pars pas, je ne sors pas dans la rue, et puis je cours, c'est l'image, hein, le symbole, et je cours, et puis advienne que pourra. Mais je cours avec un but, avec dans la pensée, cette pensée donc de l'éternité, pour recevoir cette couronne incorruptible. Donc non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps. Là, ça mériterait hein, qu'on s'y arrête et on comprend bien ce que cela veut dire. Hein. Traiter durement son corps avec ce fameux combat qui est là entre la chair et l'esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la chair, elle a des désirs contraires. Mais ici, je découvre que avec ceux qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous donne cette capacité de traiter, et j'aime beaucoup le mot, durement. Traiter durement. Ici, ça laisse pas la place à une autre alternative, mais d'être ferme, d'être dur envers la chair. Parce que la chair va toujours nous attirer loin du Seigneur. Et vous remarquerez que souvent, ça arrive par des choses subtiles. Des choses où on n'y prend pas garde, on n'y veille pas. Et on peut dire, ben, finalement, c'est pas trop grave. Mais je traite durement mon corps, et il le dit, donc ici, évidemment, on sait à quoi à qui ça s'adresse, je le tiens assujetti. Pourquoi ? De peur d'être moi-même rejeté. Alors, je bénis le Seigneur par rapport à l'élection et la prédestination. C'est que certains disent qu'un jour sauvé, ou une fois sauvé, toujours sauvé. Et d'autres disent qu'il faut qu'on travaille à notre salut, qu'on veille à notre vie. Alors le souci avec ça, c'est que dans les deux positions, la Bible enseigne les deux. Donc il faut avoir cet équilibre. Et ici, il dit, ça sous-entend qu'on doit vraiment veiller à notre vie, parce que si l'apôtre Paul peut dire « de peur d'être moi-même rejeté », c'est qu'il y a un risque. Il y a ce risque qui est là de manquer finalement, de ne pas franchir la ligne d'arrivée après avoir prêché aux autres. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça, moi je me connais aujourd'hui. Et quand j'y repense, j'ai le cœur contrit et ça vient me percuter. Je me rappelle de prédications qui m'ont béni de la part de certains hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont renié Christ. Aujourd'hui, ils se sont éloignés des choses de Dieu, et même se faisant de fervents contradicteurs de la parole. C'est terrible. Comment on peut changer ? Est-ce que ces hommes sont différents de nous ? Jamais de la vie, ou certaines femmes. Mais ici, comme il est parlé de la prédication, il dit « de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres ». Alors, quand on réfléchit à cette couronne incorruptible, elle est pour qui ? Pour tous ceux qui disciplinent leur vie. On doit obligatoirement, j'ai envie de dire, discipliner nos vies. Si nous sommes laxistes, si nous sommes nonchalants, le Saint-Esprit va s'occuper de régler ce problème. Il va venir travailler nos cœurs. Et nous dire, en fait, il faut que tu sois discipliné. Discipliné à tous les niveaux, discipliné par rapport au péché, les tentations, discipliné quant à l'entretien de notre relation avec le Seigneur. Je ne sais pas, chacun d'entre vous, c'est chacun qui pourra répondre personnellement, mais certaines personnes, par exemple, ne s'approchent de Dieu ou ne lisent la Bible que le dimanche matin, une fois par semaine, et quand ils sont à l'église. Ça, c'est un drame, parce qu'en fait, dans cette relation, où est la véritable relation que le Seigneur attend de chacun d'entre nous pour qu'elle soit, encore une fois, rafraîchie, alimentée. Alléluia. Donc, la couronne incorruptible, elle est pour ceux qui disciplinent leur vie et courent la course chrétienne avec sérieux. Courir la course chrétienne avec sérieux, c'est finalement avoir cet objectif de victoire. Alléluia, amen. Et cela signifie une récompense. Pourquoi ? Pour la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, il en faut de la maîtrise. Les pulsions qui sont là, les tentations. Et je ne sais pas vous, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous tient, on est sujet nous-mêmes à tomber. Et tout à l'heure, Jonathan l'a dit, des fois on tombe dans un gouffre. Et vous avez remarqué que quand, ça nous est tous arrivé, quand on tombe et quand on n'a pas été à la hauteur, il y a ce sentiment où on se dit, mais ça y est, je ne vaux plus rien. J'ai failli à ma tâche, mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour qui nous lancera toujours une main secourable pour nous dire, je sais que tu es au fond du gouffre, tu es tombé, les raisons, on doit s'en souvenir quand même. On doit s'en souvenir, mais si on demande pardon, la Bible nous dit que à l'instant même, le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés. Amen. Nous, on aurait tendance donc à mettre dans des cases la gravité des péchés. Il n'y a pas de péché assez grave pour que le Seigneur ne nous pardonne pas. Quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Parce que souvent, on s'auto-flagelle. Par contre, on doit demander pardon sincèrement. Être dans cette repentance que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Délaisser aussi certaines choses. Être radical. Aujourd'hui, on parle de radicalité de suite. Ce mot, donc il a une connotation. Mais radicalité quant au péché. Radicalité pour certaines choses dans nos vies. Alors, oui, la signification de la couronne incorruptible, c'est une récompense pour rester maître de soi, pour une vie consacrée. Il n'y a rien de plus beau qu'après avoir été interpellé par la parole de Dieu, avec ce message, je t'aime, j'ai prouvé mon amour envers toi, j'ai donné ma vie à la croix du calvaire. Et donc, maintenant, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est une vie consacrée. Et ça, c'est finalement la suite logique. Il n'y a rien, le contraire est valable, il n'y a rien de plus laid. Quelqu'un qui se déclare chrétien, né de nouveau, mais qui n'est pas dans la consécration. Parce qu'en fait, on manque quelque chose. Le Seigneur attend qu'on se consacre corps, âme, esprit, l'être tout entier doit être consacré au Seigneur. Alléluia. Amen. La signification de la couronne incorruptible, c'est une course qui est menée jusqu'au bout, je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui nous enseigne ce matin par rapport à cette couronne incorruptible, c'est que la vie chrétienne demande une discipline spirituelle au niveau de la prière, au niveau de la sainteté, entendu ce matin. Au niveau de la sainteté, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous, on peut s'accommoder. Chacun d'entre nous, on peut se dire, en fait, on peut s'arranger, même si on ne le dit pas, c'est comme si c'est des choses où on se dit, bon, c'est pas si grave. Moi, je trouve que quand même ce passage, je dis, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, il est quand même fort. La sanctification, c'est être mise à part. Mais également, cette pureté, deux significations par rapport à la sainteté, mise à part et pureté. Pour être dans la pureté, parce qu'on sait que, évidemment, jour après jour, le péché, il est là, il couche à notre porte. Et si on peut dire ce matin que nous sommes purs, c'est parce que le pur, Jésus, a donné sa vie pour des impurs comme moi, comme nous, comme chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette couronne incorruptible, donc prière, sainteté, également renoncement. Aujourd'hui, il y a des choses où on doit renoncer. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles, qui ne s'alignent pas avec la marche chrétienne. Alléluia. Ça, c'est la première couronne. La couronne incorruptible, et puis il y a la couronne de justice. Et on lit ce passage, ces deux versets que l'on connaît bien dans la parole de Dieu, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. En général, c'est un passage qu'on lit lors d'obsèques de chrétiens qui ont combattu, qui ont marché avec le Seigneur. Et justement, c'est bien, certains qui choisissent ces versets-là, parce que ça montre l'état de cœur, encore une fois,
de cet apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il dit, ben, moi j'ai combattu le bon combat. Là, il y aurait beaucoup à dire aussi. Hein. Donc le fait de combattre, et le fait de combattre le bon combat, ce qui sous-entend qu'il y a des combats à ne pas, et à surtout pas, mener. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Vous voyez ? Il achève la course en vainqueur, hein, en tête, en première position. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Trois verbes ici. Combattre. Tu peux revenir juste en arrière. Voilà. Combattre, achever, garder. Trois verbes tellement importants au travers de ce verset. Que le Seigneur nous encourage ce matin à les vivre pleinement. Et puis, il continue, étant donné qu'il a fait tout cela, regardez le verset 8. Alors, désormais, la couronne de justice, elle m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et l'Église, elle dit amen, alléluia, parce que nous avons aimé hein, son avènement, nous aimons son avènement. Et alors, la conséquence de tout ça, en fait, voilà, et désormais, la couronne de justice, elle m'est réservée. Frères et sœurs, ce matin, une couronne de justice nous est réservée, là-haut, dans le ciel, alléluia. Et ça doit réjouir notre cœur, on doit être vraiment dans la joie, alléluia. Et elle s'adresse à ceux qui aiment l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus va le dire aux disciples, il va dire, mais en fait, alors, en français courant, moderne, 2026, il est en train de dire, Jésus, mais aux disciples, vous êtes hors sol. Parce que certains ont voulu vivre ce que vous êtes en train de vivre, et vous le banalisez. Hein, c'est l'interprétation personnelle que je fais ce matin de ce fameux verset hein, dans les évangiles. Et en fait, on doit remercier le Seigneur pour son apparition ici-bas sur terre. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu ici-bas. Il aurait pu, hein, on le dit souvent, il aurait pu venir à l'âge de 30 ans. Ça aurait pu durer, je ne sais pas, 3 jours. Il aurait réglé le problème de l'humanité. Mais il a voulu nous montrer un exemple. Au travers, quand on parle d'exemple de Christ, ça vient nous percuter, ça vient nous chercher, nous, quant à l'ego qui est là. Lui, quand il a voulu donner l'exemple, et quand il va demander à Jean-Baptiste, le baptême. Alors, vous vous mettez 30 secondes, on se met 30 secondes à la place de Jean-Baptiste. Il savait qui était Jésus. Jésus lui demande le baptême. Et puis, il dit, mais non, c'est pas possible. Il est préférable de faire comme ça. Pourquoi ? Pour nous montrer un exemple d'engagement avec le Seigneur. Et l'importance également du baptême. Alors, je mets la parenthèse, le baptême ne sauve pas. Parce que c'est comme ça qu'on a baptisé les enfants hein, au fur et à mesure du temps. Le baptême ne sauve pas. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, à une certaine époque, c'est-à-dire il fallait de suite baptiser l'enfant pour le préserver, voilà, s'il pouvait arriver quelque chose. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, alléluia, et d'une vie nouvelle qui a été déversée, déposée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans cet exemple, le Seigneur, il va aller plus loin. Et le summum de l'exemple du Fils de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il va réunir moment solennel. Il va réunir les disciples et il va leur laver les pieds pour leur montrer comment nous devons considérer la grandeur de chaque être humain. En fait, c'est ça. Vous voyez, pour nous, l'inversion de l'échelle de valeur, s'humilier, se rabaisser pour laver les pieds des disciples. Alors, cet exemple, il est quand même assez frappant. Et l'exemple, évidemment, hein, encore qui va encore plus loin, cet exemple d'amour donné à la croix du calvaire. Et pour cela, chacun d'entre nous avons loué le Seigneur, nous avons dit « Merci Seigneur, parce que tu es venu sur cette terre. Tu es venu comme un enfant, hein, et il s'est développé, il est venu nous montrer, donc, montrer la justice de Dieu. Et en fait, ceux qui aiment
l'apparition du Seigneur Jésus, n'auront aucune difficulté à le louer. Vous savez ce que c'est, hein, louer, ce n'est pas que le faire verbalement. Louer, c'est de le faire le lundi matin quand le réveil sonne. Seigneur, je te loue. Alors certes, peut-être qu'il y a une journée compliquée, une semaine compliquée, mais Seigneur, tu es quand même digne d'être loué, digne d'être adoré. Alléluia. Amen. Donc la couronne de justice, elle est réservée à tous ceux qui aiment l'apparition du Seigneur Jésus-Christ et qui gardent la foi jusqu'à la fin. Donc, et la signification, c'est que ça récompense la fidélité avec l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ et des vies vécues dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et puis, il y a encore une troisième couronne, c'est la couronne de vie. La couronne de vie, Jacques va en parler, Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen et amen. Ici, Jacques, vous le savez maintenant, hein, l'épître de Jacques, donc c'est celle qui a été écrite dans l'Ancien Testament, la plus ancienne. Hein, donc la première lettre qui a été écrite dans le Nouveau Testament, c'est l'épître de Jacques. Et Jacques, son épître, elle a la particularité de ne pas badiner. Hein. Il va direct, il développe directement la pensée que le Seigneur a déposée dans son cœur. Et quand on le sait, vous allez voir comment notre lecture quotidienne de l'épître de Jacques va changer. Et vous allez voir que cet homme de Dieu qui va recevoir cette révélation, il prêche aux Juifs hein, de l'époque et il essaye de démontrer que c'était Jésus-Christ, évidemment le Messie, l'envoyé de Dieu. Et il commence en disant « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Vous voyez, ici, la couronne de vie, elle est reliée à supporter patiemment. Je ne sais pas si vous aimez ce mot. Patiemment. Nous, on est dans la période où on veut tout et tout de suite et des fois avec exigence. Seigneur, maintenant, qui supporte patiemment quoi, la tentation. Alors si on arrive à passer ce cap, car après avoir été éprouvé, on s'aperçoit ici que notre vie, elle sera éprouvée tôt ou tard. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen. Et quand je lisais ce verset, ça m'a tout de suite ramené à la demande du Seigneur. Dans ce fameux petit déjeuner sur la plage. Avec l'apôtre Pierre, cet homme qui avait renié Christ, imaginez son état. Hein. Puis, il est là, il voit un homme, il ne savait pas encore que c'était Jésus, et puis le Seigneur se manifeste, et puis plus tard, il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu ? » Vous savez que cette question, elle est toujours d'actualité. Hein, souvent, le Saint-Esprit vient me poser... Viens nous poser cette question. Alex, m'aimes-tu ? Continues-tu de m'aimer ? C'est ça la question. Alors nous avons réduit, évidemment, l'amour voilà, un sentiment. Est-ce que tu prouves tous les jours, en résistant à la tentation, ce qu'on a vu, hein, que tu m'aimes ? Alors, merci Seigneur, parce que vous le faites, nous le faisons par la grâce du Seigneur. Alors, Pierre, lui, il va répondre. Alors, quand Jésus lui pose la question, vous le savez, hein, il va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? C'est-à-dire l'amour agapé, l'amour qui se donne, l'amour qui se sacrifie. Et Pierre, il répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est l'amour philéo, comme un ami, voilà. La sympathie qui est là. Trois fois, le Seigneur lui pose la question. On aurait pu dire, se dire que la troisième fois, il a compris la leçon. Puis il va redire.
trois fois. Amour, philéo. Ce que le Seigneur attend, c'est que l'on réponde pour nous. Chacun, personnellement, oui Seigneur, je t'aime. Au point de sacrifier certaines choses qui ne sont pas bonnes, non seulement pour nos vies, mais qui te plaisent à toi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à abandonner également certaines choses. Donc l'amour se prouve. Regardez encore quand on parle de la couronne de vie, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Alors là, il y a des fois, il y a des versets. C'est sûr, c'est dans la Bible. Voilà, ça commence comme ceci. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Waouh. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin, regardez encore une fois, que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. L'exhortation du Seigneur. Sois fidèle, jusqu'où? Jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ici, je remarque que la couronne de vie, elle est donnée. Ce n'est pas un échange, c'est le Seigneur qui nous le donne. Sans rien attendre en retour, finalement, je te donnerai la couronne de vie. Amen pour tous ceux qui endurent l'épreuve. Il y a des fois, il y a des épreuves que nous traversons, puis on le communique, on prie les uns pour les autres, et c'est bien de le faire. Mais je suis sûr ce matin qu'il y en a qui sont au milieu de nous ce matin. Vous vivez des épreuves secrètes. Des épreuves qui sont là. Vous n'avez jamais osé en parler à qui que ce soit. Mais le Seigneur, il voit tous ceux qui éprouvent, qui endurent cette épreuve. Et à un moment donné, il va y avoir cette récompense. Notre responsabilité, c'est de rester fidèle jusqu'à la mort. Seigneur, aide-nous. Je ne sais pas vous, mais moi, ce passage, il vient me percuter. Il dit, Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Mais fidèle jusqu'à la mort. Ici, le Seigneur nous montre que voilà, il y a un objectif à atteindre. Et cela récompense la persévérance dans la souffrance. C'est difficile. Quand on souffre, difficile. Mais pourtant, quand on persévère, au-delà de tout ça, de tout cela, il va y avoir donc la couronne de vie. C'est une promesse de vie éternelle. Une victoire sur la tentation et la persécution. J'aimerais vous dire ce matin que la souffrance n'est pas une fin. Mais elle ouvre une gloire éternelle. Alors, la couronne de vie, elle est réservée pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Et puis, il y a la couronne de gloire. La couronne de gloire, ici, c'est Pierre qui en parle. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1. 1 Pierre 5, verset 1. 1 Pierre 5, verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Alléluia. Amen. Ici, ça s'adresse, on l'a vu, pour les pasteurs, les anciens, les responsables, tout ce que le Seigneur a appelé à un moment donné dans une certaine responsabilité, et tous ceux qui prennent soin du troupeau. Il y aura une récompense pour le service fidèle. Et pour cela, le Seigneur veut reconnaître en chacun de nous donc le cœur de berger, de veiller les uns sur les autres, ce que le Seigneur met sous notre responsabilité. Nous avons, et donc ici on le voit, ça s'adresse donc aux pasteurs, aux anciens, aux responsables. Le Seigneur nous a donné, m'a donné en tant que pasteur, la responsabilité de veiller sur le troupeau de Sainte-Agne. Et c'est pour ça quand quelqu'un n'est pas là, il y a comme, voilà, on réfléchit, tiens, pourquoi le frère, la sœur n'est pas là. Non pas pour s'immiscer dans la vie des gens, vous l'avez compris, hein, mais simplement par inquiétude. Et puis, en gardant, en étant fidèle dans ce que le Seigneur dépose dans le cœur du conducteur spirituel, le Seigneur met donc vision, hein, alors, rien d'extraordinaire, hein, ces visions on les retrouve dans la parole de Dieu, mais vous savez que je devrais rendre des comptes pour cela. Et je serai traité plus sévèrement que quelqu'un d'autre. Alors du coup, sachant cela, je dois m'atteler à ma responsabilité qui la mène. Alors, je ne le fais pas en tremblant, mais je le garde quand même à l'esprit pour ne pas partir donc à gauche et à droite et être toujours fixé dans cette ligne directive. Et pour les anciens, c'est également pareil. Ici, il y a, au travers du passage qu'on a lu, toujours d'être un exemple pour les autres. Et ça, c'est une belle résolution pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-moi à être un exemple pour mon frère, pour ma sœur, au niveau de la prière, au niveau de l'assiduité aux réunions, à être là, Seigneur, à tenir ferme. Il y a des choses que, dans notre marche chrétienne, hein, qui se font, voilà, c'est personnel, c'est vous. Et puis, il y a des responsabilités quand on se réunit. Et moi, je bénis Dieu parce que je suis toujours émerveillé de savoir que à chaque fois, dans toutes les églises, on a pu passer, le Seigneur a ajouté à l'église ce qui manquait, avec des compétences, certains. Certains ont des compétences, d'autres des capacités que d'autres n'ont pas. Et ça, ça fait la richesse, finalement, de l'église, une fois qu'on l'a compris. Parce que si on ne l'a pas compris, ça va susciter quoi ? De la jalousie. On va vouloir ce que l'autre a. C'est ma prière, hein. J'ai dit, Seigneur, moi, garde-moi. Hein. Moi, je bénis les frères et sœurs qui sont réactifs, qui, à un moment donné, dans plusieurs domaines, hein, à un moment donné, c'est leur domaine, le Seigneur leur a donné. Et puis, aucunement je suis jaloux ou quelque chose qui puisse monter. Au contraire, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que c'est une richesse pour l'Église. Et si nos regards changent par rapport à ça, alors on va se bénir les uns et les autres. On va vouloir le bien du frère, de la sœur. Alors quand on dit ça, on dit, Seigneur, oui, hein, au niveau de la responsabilité, il ne faut surtout pas rentrer dans de la rivalité. De la rivalité, quand par exemple, je prends juste cet exemple, au niveau de la prédication, si c'est moi, hein, si c'est Vincent qui prêche, si c'est Jonathan, si c'est Jérôme, c'est exactement la même chose en fait. Et on n'est pas en rivalité avec quoi que ce soit. Vous vous rappelez au tout début, je l'avais dit, et par rapport aux anciens, et je vous promets que si on fait ça, alors tout ce qui est de la chair va disparaître. Seigneur, bénis mon frère. Je veux que mon frère, quand il apporte la parole, ben, il apporte la parole avec ce que toi tu lui as donné, alléluia, amen, pas de rivalité, pas de jalousie, alors on recevra la couronne de gloire. Moi je ne sais pas vous, hein, Vincent, Jonathan, moi je la veux la couronne de gloire, hein, on la veut. Alors soyons fidèles, montrons l'exemple. Vous vous souvenez, pour tous les responsables, en début d'année, c'était le thème, hein, on aura l'occasion de faire un point, hein, dans quelques temps. Soyons des modèles, soyons des exemples à tous les niveaux. Des fois, là je parle, voilà, à un moment donné, des fois, ça dépend comment on se lève. Moi, je faisais partie de cette catégorie-là. Moi, à une certaine époque, quand je me levais, pendant au moins 30 à 40 minutes, il fallait que personne ne me parle. Vous vous rendez compte, si en tant que pasteur, j'arrivais dans l'église, et puis je veux parler à personne, parce que je suis là, et c'est ma personnalité. Et je peux me défendre en disant, mais c'est ma personnalité. Je ne sais pas comment vous allez interpréter ça. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? Après, vient la suite. Hein. Ben, c'est ça l'amour. Et puis quand on est sur l'estrade, on donne des directives à l'église, ou quand on conduit les chants, quand on fait autre chose. Donc, vous voyez l'importance d'être un modèle. Et quand on choisit une responsabilité, on doit vraiment peser ces choses-là, parce que sinon, ça risque de
nous emporter. Que le Seigneur nous donne d'être dans cet équilibre pour cette couronne de gloire. Alléluia. La récompense pour le service fidèle. Seigneur, donne-nous d'être toujours à ton service, d'être donc reconnaissant et avoir ce cœur de berger. Et en fait, la responsabilité spirituelle n'est pas un titre, mais un service humble. Garde-moi, Seigneur, dans l'humilité. Garde-nous, Seigneur, dans l'humilité. Surtout pas en écrasant les uns et les autres. En étant humble. Alléluia. Et surtout persévérant. Et puis la dernière couronne, c'est la couronne de joie. Est-ce que vous avez cette perspective de la couronne de joie? Alléluia. Amen. En fait, le mot pour la couronne de joie, ça peut également se traduire par la couronne d'exultation. La couronne d'exultation. Alors juste, je regardais un petit détail ce matin. La définition d'exulter. Être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. Des fois, on est devenus des spécialistes pour dissimuler. Non, mais frère, ça se passe à l'intérieur. Gloire à Dieu. Mais à un moment donné, il faut que ça sorte quand même. C'est ça, en fait, exulter. Et cette couronne de joie, c'est cette couronne d'exultation. Et c'est dans cette optique-là, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19, où il est dit, 1 Thessaloniciens 2:19, qui est Dieu ? En effet, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement ? Alléluia. Hein, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. Et puis Philippiens chapitre 4 verset 1. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, regardez, hein, ici c'est relié, ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... alors, il me semble que c'est le DPS. Alors là, je parle plus expérimenté. Attention aux mots qu'on emploie, les plus expérimentés. Le DPS numéro 103, il dit « Quand l'Esprit de Dieu agit à moi, je danse comme David, donc je loue comme David. » Puis à un moment donné, il dit « J'exulte comme David. » En fait, c'est cette couronne de joie, cette joie qu'on ne peut contenir. Vous me l'avez entendu dire plusieurs fois. Il n'y a pas 50 façons de voir que quelqu'un est dans la joie, hein. Alors quand on exulte, Seigneur, je te bénis. J'espère que de temps en temps, si ce n'est assez souvent, dans votre culte personnel, vous souriez à Dieu. Vous exultez devant le Seigneur. J'espère. Hein. Eh oui, hein, que le Seigneur nous aide, hein, vraiment à réaliser tout ce qu'il nous accorde. Et quand on le réalise, alors ça réjouit notre cœur. Et c'est pour ça que au milieu de nous, hein, quand on se réunit, on est dans la joie. On exulte ensemble parce qu'on réalise tout ce que le Seigneur nous donne. Ici, donc la joie, l'exultation, elle est reliée à certaines choses. Elle est reliée, elle est pour ceux qui gagnent des âmes. Vous avez remarqué, quand on a accompagné quelqu'un jusqu'à prendre une décision et s'engager avec le Seigneur et puis être sauvé pour l'éternité. Il y a une joie qui vient, cette exultation qu'on ne peut contenir, d'avoir été l'instrument entre les mains du Seigneur. Et je crois de tout notre cœur que chacun d'entre nous, nous devons nous fixer comme objectif. Seigneur, durant cette année 2026, permets que je puisse accompagner quelqu'un à ce qu'il te rencontre, qu'il te donne sa vie et qu'il soit sauvé pour l'éternité. Alléluia. Je ne sais pas combien on est ce matin. Rendez-vous compte, si pendant une année, on va dire on est à 70, une année, chacun prie pour une personne et la personne s'engage avec le Seigneur. Dans 2 ans, mais 140. Puis je vous laisse faire la multiplication. En fait, la perspective de multiplication selon le Seigneur. Alors ici, je vous ai donné un exemple, mais que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager à cela, à exulter de joie par rapport à cette couronne de joie. C'est pour ceux qui gagnent des âmes, c'est la récompense pour l'évangélisation, la joie éternelle de voir des vies transformées. Amen. Et c'est le fruit donc du service spirituel. Chaque âme gagnée pour Christ est une couronne devant Dieu. Amen. C'est ce que veut dire la couronne de joie. Alléluia. Que Dieu soit béni. À lui seul soit toute la gloire. Vous voyez, toutes ces couronnes, elles sont là pour encourager à la fidélité, pour manifester la justice de Dieu, pour révéler sa grâce, pour nous accorder sa gloire. La question qui vient juste après, c'est que ferons-nous de ces couronnes? Qu'allons-nous faire de ces couronnes? Apocalypse chapitre 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela nous montre? C'est la perspective des événements à venir. Quand on va se retrouver là-haut, ces couronnes-là, donc on va les jeter à terre parce qu'en fait, on va avoir quelque chose de mieux. On va avoir finalement la présence de Dieu pour l'éternité. Nous serons dans sa présence. Nous allons voir Dieu tel qu'il est. Je ne sais pas si ça vous bouleverse. Ça. Voir Jésus-Christ dans sa gloire. Ça va être notre récompense. Alors, les autres choses, les autres couronnes, comme les 24 vieillards, on va les jeter à terre parce que nous aurons quelque chose de plus grand dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous garde à appliquer ces choses, à le servir avec fidélité, à aimer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'a vu, à gagner des âmes, combattre le bon combat, et puis dans la perspective de l'éternité que nous allons passer ensemble. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces couronnes que tu nous donnes. Seigneur, il y a toute cette symbolique que nous avons essayé de partager, Seigneur, ce matin. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions sortir de ce lieu, Seigneur, encouragé, parce qu'il y a une perspective, Seigneur mon Dieu, d'éternité pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, que nous ne puissions pas simplement vivre en ayant les regards, Seigneur, fixés sur cette terre. Merci pour tous ceux que tu nous donnes, Seigneur, pour les biens matériels et autres, Seigneur. Mais Seigneur mon Dieu, aide-nous à avoir les regards, Seigneur mon Dieu, vers le ciel, vers l'éternité, Seigneur. Et cela va nous remplir de joie, nous allons exulter et nous allons glorifier ton nom, Seigneur. Merci pour toutes ces couronnes, Seigneur mon Dieu, et nous voulons que tu vas nous donner, Seigneur, comme récompense pour chacun d'entre nous, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, que dans cette semaine, nous puissions nous souvenir de cela. Seigneur, que tu es fidèle et que tu vas nous récompenser, et qu'il y a une course également à terminer. Aide-nous, Seigneur, à terminer la course, Seigneur vainqueur. Que ton nom soit béni, ô notre Dieu. Amen.